Good Morning Business, le débrief de la matinale.
Le débrief de la matinale ce matin, bien évidemment, avec cette actualité au Moyen-Orient. Un peu avant 4h du matin cette nuit, de fortes explosions ont retenti près d'une base militaire d'Ispahan dans le centre de l'Iran. Les médias américains confirment qu'Israël a lancé une attaque. On est avec Benaoud Abdennaïm, bien sûr. Jean-Marc Daniel et Marc Fiorentino sont avec nous jusqu'à 9h. Benaouda, on a eu un... sorte de vent de panique, notamment sur les marchés, autour de 5h du matin. Le Nikkei a fait sa pire séance en 3 ans. Ça a un peu bougé sur le pétrole. Et puis depuis, la tension est clairement redescendue sur les marchés, mais aussi dans les déclarations.
Oui, parce que les Américains qui se chargent de porter la parole des Israéliens font clairement savoir, selon eux, que c'est une réponse calculée, calibrée, limitée de la part d'Israël à l'attaque iranienne de samedi dernier. Tout à l'heure, sur une chaîne américaine, un ancien général de l'état-major américain expliquait que le message calculé d'Israël, c'était de démontrer en frappant la zone d'Ispahan où se trouve une base aérienne où il y a d'anciens, enfin de très vieux avions de combat américains qui sont sur une base aérienne près d'Ispahan, que ils sont en moyen de, les forces israéliennes sont en moyen de submerger les défenses aériennes iraniennes, sachant que à une centaine de kilomètres au nord d'Ispahan, qui se trouve au centre de l'Iran, il y a une des très grandes installations nucléaires surveillées par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui stocke de l'uranium enrichi, et c'est à Natanz. Et Natanz, c'est là où on est susceptible d'avoir cet uranium enrichi qui permettrait, le cas échéant, de fabriquer une arme nucléaire. Donc c'est un message calibré qui est compris visiblement comme tel à Téhéran, si l'on suit les différentes réactions qui sont diffusées par les médias d'État, agences de presse, télévision, etc. Et on va même au-delà, parce que le message sous-jacent qu'on entend ces dernières minutes et qu'on a entendu notamment sur une chaîne d'État iranienne, c'est que ce seraient des infiltrés, je cite...
Ils disent pas d'attaque extérieure, déjà.
Une puissance extérieure, sans la nommer, qui aurait déclenché des mini-drones, ces mini-drones qui auraient été abattus et qui n'auraient représenté aucun dommage pour les installations militaires iraniennes. Donc, de ce point de vue-là, c'est une réponse calibrée à une autre réponse calibrée. Sachant que, comme l'a dit il y a un peu plus tôt dans la nuit, un analyste qui suit l'Iran, qui s'appelle Ali Vaez, qui travaille pour le Crisis Group à Washington, qui suit quotidiennement le dossier, on est dans un moment dangereux parce qu'on est dans le cadre d'une rivalité géostratégique où chacun des belligérants est en train de tenter de modifier les codes, les règles de cette belligérance, et que un malentendu stratégique, un accident peut survenir. Pour l'instant, cet accident, ce malentendu stratégique n'est pas survenu.
Antoine Larigaudry est avec nous depuis Euronext à Paris. Antoine, je le disais, pire séance pour le nickel depuis 3 ans, et puis depuis quand même ça s'est calmé sur les marchés.
Alors, c'est vrai que du côté du Nikkei, il y a aussi des problématiques externes, hein, comme l'échange, avec notamment le problème du yen. Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a eu une énorme pointe de tension un petit peu plus tôt ce matin. On avait un CAC 40 qui était parti pour une ouverture en baisse d'1,7%, les futurs américains qui perdaient 3%, le pétrole qui est monté au-delà des $90, l'or qui était proche de ses records absolus. Et puis là, effectivement, les choses se calment. Alors, très, très nettement, là, juste avant l'ouverture, le CAC 40 est attendu sur une baisse vraiment modéré, hein, moins 0,5% là, à l'heure actuelle. Le pétrole est revenu sagement sous les $89, on est à 88,30. Pareil pour l'or, hein, qui redescend sous les 2400, 2396 $. Maintenant, on a quand même un vrai coup de semonce en cette fin de semaine qui s'annonce très agité sur les marchés, puisqu'il y a des expirations d'options et d'échéances sur les contrats et les dérivés sur indices, hein. C'est une séance à trois sorcières, les trois sorcières mensuelles. Il y a également le halving du Bitcoin, hein, qui peut éventuellement instiller un petit peu de volatilité. Donc là, on a vraiment un coup de semonce qui nous dit, n'oubliez pas la prime de risque géopolitique. Elle s'est réinstallée un petit peu là, sur les cours, malgré la correction, la petite détente de ces dernières heures. Il ne faut pas l'oublier, et elle va peser sans doute sur la séance d'aujourd'hui tout de même.
Merci Antoine, on se retrouve à l'ouverture à 9h, juste avant qu'on rentre dans notre débat entre Marc Fiorentino et Jean-Marc Daniel. Benaoud Abdennaïm, la question c'est, est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que ça peut s'arrêter là?
Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas s'avancer, mais quoi qu'il en soit, et c'est un analyste militaire qui l'a dit, un israélien qui l'a dit, un quotidien de Jérusalem Ouest, un quotidien conservateur, la force doit répondre à la force, c'était la position israélienne. Pour Israël, c'est l'idée d'inspirer de nouveau la certitude que son territoire ne saurait être visé impunément. et ceci répondant à une volonté de Téhéran d'asseoir sa crédibilité de nouveau, la crédibilité de sa posture stratégique et de sa capacité à riposter à une attaque israélienne. On est dans cette idée-là que ce sont deux postures stratégiques qui sont en train d'être réaffirmées de part et d'autre.
Merci beaucoup Benaouda Abdedaïm. On continue bien sûr de suivre l'actualité au Moyen-Orient toute la journée sur BFM Business. On rentre dans notre débat entre Jean-Marc Daniel et Marc Fiorentino, un débat qui vous passionne sur les déficits publics et la dette. J'aurais pu vous faire le crypto, mais c'est pas ça qui vous a intéressé.
Non,
aujourd'hui, Marc, les États-Unis pour vous ont raison de faire du déficit. Nous, on a tort en France, mais eux, ils ont raison.
Mais en fait, c'est Jean-Marc Daniel qui a tort. C'est-à-dire qu'il y a deux formes de déficit. Il l'a oublié dans ses cours, parce qu'il étudie trop l'Antiquité, pas assez l'économie moderne. Dans le déficit, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme le cholestérol, il y a du bon et du mauvais. Et là, on a deux exemples qui sont assez frappants. On a l'exemple de la France, on a l'exemple des États-Unis. En France, on a l'exemple même du mauvais déficit, c'est-à-dire du déficit qui va dans des dépenses courantes. C'est-à-dire l'exemple typique que je reprends à chaque fois, c'est protéger le prix de l'essence pour tout le monde. Bon, ça, c'est vraiment de l'argent. Ça, c'est vraiment de l'argent qui est mis à la poubelle. On a pris plusieurs dizaines de milliards, on les a achetés par la poubelle. Zéro croissance. D'ailleurs, on voit à partir du moment où notre déficit s'arrête, c'est un peu comme si on arrête de faire de la publicité, qu'on vend plus sur Internet. C'est exactement la même chose. C'est le problème des startups. Dès qu'on arrête de mettre de l'argent dans ce puits sans fond, il n'y a plus de consommation, il n'y a plus de croissance.
C'est le mauvais déficit.
Ça, c'est le mauvais déficit. Et puis, il y a le bon déficit, contrairement, qui n'est pas affolant. Certes, les chiffres sont affolants sur papier. 8%, 7,5% l'année prochaine pour les États-Unis. Bon, on peut se dire, waouh, c'est complètement dingue. Mais finalement, dans ce déficit-là, il y a du mauvais déficit. Hein, il ne faut pas caricaturer. Hein, ils ont fait comme nous, ils font des erreurs. Et puis, il y a du très bon déficit. C'est-à-dire, c'est comme un peu dans l'économie d'entreprise. On peut dépenser de l'argent pour investir et on peut dépenser de l'argent simplement pour des dépenses qui ne créent pas de croissance à terme. Et là, ils sont déjà en train de montrer que ce qu'ils sont en train d'investir par leur déficit a un impact spectaculaire, parce que la croissance qu'on a, elle est spectaculaire. Mais moi, c'est pas la croissance qui me fascine, c'est le fossé de compétitivité. C'est-à-dire la croissance, ok, on peut se dire un peu comme la France, avec 8% de déficit, on fait 2,5% de croissance, ça a rien de spectaculaire. Mais par contre, avec 8% de déficit, on fait une productivité qui est en train d'exploser aux États-Unis alors qu'elle est en chute libre en Europe et en France. Bah ça, c'est différent.
Jean-Marc, il y a un bon et un mauvais déficit.
Alors, il y a un bon et un mauvais déficit, mais pas au sens où l'entend Marc Fiorentino. Parce que déjà dans l'Antiquité, à laquelle il fait allusion, on s'était aperçu que l'État n'était pas une entreprise. Et donc, dire il y a le bon déficit qui est l'investissement, le mauvais déficit qui est le fonctionnement, c'est absurde. Parce que le fonctionnement, c'est des professeurs qui améliorent la productivité et le capital humain.
Donc, c'est un investissement aussi.
Donc, c'est de l'investissement. Et l'investissement, on prend souvent comme exemple le cas du Japon où ils investissaient sur des ponts jusqu'au moment où ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien sous ces ponts et donc ils se sont mis à creuser des rivières pour les faire passer sous les ponts. Et donc ça, c'est de l'investissement. Alors quand on regarde la situation réelle de ce qu'est un bon et un mauvais déficit, un bon déficit, c'est celui qui répond à la conjoncture, c'est-à-dire dans les phases de récession et de ralentissement de la croissance, et un mauvais déficit, c'est celui qui se maintient indépendamment de la conjoncture. Or, quand on regarde la situation aux États-Unis, je me réfère à la dernière note du FMI, le responsable du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a parlé de surchauffe, qui est une vieille expression qui vient des économistes français. L'économie américaine est en surchauffe, c'est-à-dire qu'elle n'investit pas, elle maintient, contrairement à ce que dit Marc, elle maintient un niveau de dépenses, notamment de dépenses des ménages, qui est excessif.
Mais la productivité, par exemple, c'est bien une indication que...
Oui, sauf que la productivité, les statistiques de productivité des Américains changent pratiquement tous les 3-4 mois. Donc,
ouais, mais c'est trop facile.
Mais elle monte alors chez nous, elle descend, c'est ça?
Bah oui. En Europe, elle est en baisse. Aux États-Unis, elle est en hausse. Après des années de stagnation un peu partout, on avait commencé à désespérer, hein, à se dire. Oui.
Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont démarré en termes de productivité?
Aujourd'hui, il y a un investissement et une avance dans la tech, dans l'IA, qui est en train d'exploser. Et avec un fossé. Alors, on a eu le sommet européen pour rétablir la compétitivité. Bon, c'est toujours bien, c'est mieux que de ne rien faire. Mais on voit que les mesures qu'on est en train d'annoncer par rapport à ce que font les États-Unis. Bon, l'IRA, ça a été un plan dévastateur pour l'Europe. Hein.
Jean-Marc.
Mais non, parce que la productivité, elle augmente quand il y a des investissements, mais des investissements privés. Ces investissements privés qui conduisent de la productivité à la compétitivité, ce sont eux qui soutiennent la croissance de façon positive. Or, un pays qui dégage un déficit extérieur de 1 000 milliards de dollars, qui s'est encore creusé, on va dépasser les records de 5,2% de 2020, qui était une année un peu spéciale puisque c'était l'année de la Covid. Aux États-Unis, un pays qui est avec un tel niveau de déficit extérieur n'est pas un pays compétitif. Et un pays qui, encore une fois, une politique budgétaire qui maintient la surchauffe, c'est-à-dire qui entretient une consommation supérieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de l'efficacité de l'appareil productif.
Enfin, surchauffe, on est quand même à 2,5% de croissance.
Hein. Oui, et on surchauffe par rapport à la capacité.
C'est l'inflation américaine.
Et il n'y a pas que la consommation des ménages, parce que si on t'écoute, on a l'impression que c'est uniquement la consommation des ménages qui alimente la croissance. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a l'investissement public, il y a l'investissement privé. Tu parles de l'investissement privé que tu mets en avant, il a jamais été aussi fort aux États-Unis. C'est une explosion totale de
l'investissement. Mais ça veut dire qu'ils peuvent aller plus loin encore dans le déficit?
Non, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'aller beaucoup plus loin, mais s'ils maintiennent déjà des chiffres annuels qui restent autour de 7 ou 7,5%, on est déjà très loin, mais je maintiens que cet argent qui est investi est bien investi. Alors, Jean-Marc, pour une fois, a raison sur un point. Il y a une partie des investissements qui est mauvais comme partout, mais il y a une énorme partie des investissements qui sont des investissements, on adore cette expression en France, des investissements d'avenir. Et l'avenir aux États-Unis, c'est pas demain ou après-demain comme en Europe, c'est aujourd'hui.
Jean-Marc, vous dites pas ils ont eu raison de faire l'IRA?
Non, je dis pas ça parce que je ferai juste un commentaire de Peter Navarro. Peter Navarro est quelqu'un qui redevient à la mode puisque c'est...
Il n'a rien à voir avec Roger Hanin.
Non, absolument, il n'a rien à voir avec Roger Hanin, mais il a beaucoup à voir avec...
On mettrait cette blague dans l'ordre.
Oui, avec Donald Trump, qui n'a rien à voir avec Walt Disney. Et donc, Donald Trump l'a choisi comme conseiller économique. Donc, on le voit réapparaître, puisqu'il sera peut-être aux manettes dans 6 mois. Et donc, Peter Navarro dit, c'est bien joli l'IRA et tout ça, mais ça permet à des entreprises qui sont détenues par des capitaux japonais et allemands d'embaucher des ouvriers mexicains, avec comme conséquence d'augmenter les impôts des citoyens américains. C'est-à-dire que pour lui, l'IRA, c'est des investissements étrangers, une main-d'œuvre étrangère, mais des impôts payés par les Américains.
Vous dites c'est bien pour les Européens?
Ah ben je suis ravi pour les Européens, sauf que je...
Bah, la preuve, on est ravi sur les Européens, les résultats sont fantastiques.
Ah ben oui,
on est en pleine forme. Il n'y a pas à dire on va gagner par KO là.
Quand on regarde le revenu moyen des Européens, quand on regarde l'excédent extérieur de l'Europe, je pense qu'on est plutôt en train de gagner par KO. Le problème c'est que au sein de l'Europe, il y a quelques pays qui ne suivent pas l'exemple des autres pays.
Des
pays qui font du mauvais déficit. Ça,
on parlait de surchauffe il y a quelques instants sur la croissance, bon, qui est autour de 2,5. C'est, peut-être que c'est sur l'inflation que là, il y a quelque chose qui ne redescend pas. Aux États-Unis, les chiffres étaient au-dessus de ce qu'on attendait.
Ouais, alors moi, j'ai un aveu à faire ce matin. Jean-Marc Daniel m'a endormi. En fait, il m'a hypnotisé pendant des mois en me répétant cette phrase un peu comme K.A. dans
Ça n'existe
dans
pas l'inflation, ça n'existe pas l'inflation.
Il n'y a pas d'inflation. Vous savez, K.A., il n'y a pas d'inflation.
Pour regarder trop BFM Business, peut-être.
Il n'y a pas d'inflation. Et donc, à un moment...
Faut arrêter avec les replays et les podcasts, là.
Et je me suis endormi complètement sur « il n'y a pas d'inflation ».
Vous êtes trompé, en fait.
Eh bien, je me suis complètement trompé, parce qu'en fait, il disait « il n'y a pas d'inflation ». Et surtout, quand on lui disait « ah, l'inflation de second tour, oh là 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 là, l'inflation de second tour, par les salaires, c'est des années 70, la spirale ». En fait, il nous a complètement endormis. En fait, un, il y a de l'inflation, d'abord, aux États-Unis. Alors, peut-être que dans d'autres pays, à cause du fait qu'il n'y a pas de bon déficit, il n'y a pas d'inflation. Et surtout, il y a une inflation de second tour par les salaires. Alors, ce n'est pas celle qu'on a connue dans les années 70, qui est une inflation par l'indexation, mais c'est une inflation par le fait qu'il y a deux phénomènes. D'abord, un, il y a la démographie. D'accord, celle-là, elle est massive, donc elle provoque une hausse de l'inflation. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé, parce que Jean-Marc Daniel m'a tellement répété qu'il n'y avait pas d'inflation.
Tout est de la faute de Jean-Marc, vous ne réfléchissez jamais par vous-même. Non,
mais c'est formidable. Quand vous avez quelqu'un comme Jean-Marc Daniel...
Et vous n'êtes personne sans Jean-Marc.
Qui est un monument, et qui vous dit il n'y a pas d'inflation. Vous n'allez pas vous dire, vous, Marc Fiorentino, qui n'êtes pas économiste, oui, il y a de l'inflation. Ça, c'est le premier élément.
Jean-Marc, vous avez beaucoup de pouvoir. Hein.
Et puis le deuxième élément, quand même, qui est essentiel, et je boucle avec l'actualité récente, c'est cette notion de salaire décent. C'est-à-dire, ok, salaire décent ou pas salaire décent, ce qu'on est en train de dire, c'est que les salaires les plus bas vont être revalorisés de façon significative parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Parce qu'il y a, alors Jean-Marc d'ailleurs va nous expliquer qu'on va chercher des gens dans les EHPAD pour les EHPAD en Inde, parce qu'il va nous expliquer que c'est par les travailleurs indiens.
Attendez, faites pas la démonstration de Jean-Marc avant.
Parce que je la connais. Et donc on est dans cette situation-là où on va avoir une revalorisation des bas salaires. qui va être très forte. Et donc, on a une inflation de second tour. Donc, il nous a trompés.
Alors, attendez. Jean-Marc, il y a de l'inflation ou il n'y a pas d'inflation?
Non, il n'y a toujours pas d'inflation. Toujours pas. D'autant plus que je souligne une contradiction chez Marc. Il nous explique qu'il y a des gains de productivité spectaculaires aux États-Unis. Quand il y a de la productivité, c'est normal que les salaires augmentent. Et quand les salaires augmentent grâce à la productivité.
Ça, c'est de la bonne inflation.
Il n'y a pas d'inflation. Les salaires augmentent, mais les prix n'augmentent pas. L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Si vous augmentez les salaires grâce à la productivité, vous n'avez pas augmenté vos prix puisque la productivité.
Donc, il n'y a pas d'inflation aux États-Unis.
Donc, ça boucle pas.
Alors, attendez.
C'est-à-dire que ça boucle pas dans ces
boucle
cas-là.
Pas, c'est-à-dire qu'il
n'y a pas d'inflation aux États-Unis.
Et donc,
les chiffres sont faux alors.
Non, non, je ne dis pas que les chiffres sont faux. C'est-à-dire qu'on est passé de 3,2 à 3,4, qui est alors c'est même pas temporaire. C'est juste, j'attends le mois prochain pour essayer de triompher face à Marc. En revanche, quand vous regardez dans les pays du G20, quels sont les pays où il y a encore une forte inflation dans les pays du G20 ? Il y a donc la Turquie et l'Argentine où on a une situation de
oui.
Disparition de la monnaie, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire l'inflation est telle que le taux de change baisse, ce qui réentretient l'inflation, ouais. Et donc ça n'a plus aucun sens. Il y a deux pays où il y a de l'inflation qui est en train de se remanifester, c'est Singapour et l'Indonésie, et ces deux pays sont mis par les États-Unis sur la liste des pays qui manipulent leur taux de change pour essayer d'améliorer leur compétitivité. Ce sont donc là aussi des pays qui utilisent le taux de change pour essayer de gagner de la compétitivité, qui ont en retour une augmentation des prix des importations et donc de l'inflation. Mais en revanche, au niveau mondial, je maintiens, malgré les sarcasmes de Marc, que l'exode rural indien fait baisser le salaire.
Voilà, je vous l'avais dit ou pas?
Ah oui, parce que l'exode rural n'est pas terminé.
En Inde,
qui vote aujourd'hui.
Je reviens d'ailleurs sur Michelin et le salaire d'essence. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de Michelin dit, je vais augmenter mes salaires des 132 000 personnes que j'emploie.
Il y a 5% de la population chez Michelin qui est concernée, parce que les autres
7 000 personnes.
Oui.
Oui, et quand vous regardez dans les 132 000, Michelin annonce qu'effectivement, ils ont de plus en plus délocalisé en Inde, et donc le salaire qu'ils vont payer en Inde est très très largement inférieur à celui qu'ils paieraient aux gens qui sont à Clermont-Ferrand.
Mais ça reste une augmentation de salaire, c'est-à-dire qu'on... Ce qui est intéressant, c'est pas tellement de savoir si c'est 7 000, et puis je pense qu'il faut saluer quand même l'initiative, parce que c'est une bonne initiative, c'est surtout cette notion de salaire décent, c'est-à-dire qu'on est passé du salaire minimum au salaire décent. À partir du moment où vous avez mis cette idée dans l'esprit... Hein,
morale, une idée morale.
Morale, défendable, louable, mais c'est très clair qu'on est en train de dire, en fait, le salaire minimum n'est pas un salaire décent. Donc vous allez vous retrouver avec pas mal d'entreprises dans lesquelles les employés vont pouvoir aller voir leur patron en leur disant... Mon salaire n'est pas décent, c'est le salaire
vous
minimum.
Vous étiez vous-même, Jean-Marc, face à la CGT de Michelin hier sur BFM TV. Vous leur avez dit, allez-y, demandez des augmentations de salaire.
Ah oui, allez-y, demandez des augmentations à des gens qui prétendent que vous n'êtes pas assez bien payé. Sauf que ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la conséquence de ça, c'est que Michelin va se permettre de délocaliser de plus en plus. C'est-à-dire, on va payer un salaire soi-disant décent à des gens qui vont rester à Clermont-Ferrand.
Oui. Et puis on va augmenter les salaires en Inde.
Et on va balancer de toute une partie du travail en Inde. Et au final, les gens...
Mais ça, c'était déjà écrit, c'était dans le sens de l'histoire.
Ça va pas de chômage, hein, en réalité. Les gens à qui on dit vous allez avoir un salaire décent, c'est on leur annonce plutôt qu'ils vont avoir une indemnité
que
de chômage.
D'autres vont avoir un salaire décent.
Sauf que Jean-Marc oublie qu'une énorme partie aujourd'hui des bas salaires sont dans des jobs de proximité. On n'est plus dans les années 60 de Jean-Marc avec des ouvriers qu'on peut délocaliser en Inde. Une partie des bas salaires, c'est des jobs de proximité. C'est des jobs qu'on ne peut pas remplacer par des travailleurs indiens. Donc c'est faux.
C'est les aides à domicile et les EHPAD, c'est là où vous voulez venir.
Oui, et les serveurs et les cuisiniers et tout ce qui travaille dans la restauration, dans l'hôtellerie. Et ça, ce sont des gens difficiles de délocaliser en Inde le service dans un restaurant.
Il y a encore 3 millions de gens qui travaillent dans l'industrie dans ce pays qui peuvent être délocalisés. Hein.
Merci à tous les deux d'avoir débattu ce matin dans Good Morning Business.
On est d'accord ou pas?
Vous réécouterez encore une fois les replays, les podcasts. La conclusion, c'est que c'est terminé.
Qui est le menteur, là?
Merci.
Alors là, vraiment
tous les deux, c'est pas facile de savoir qui est le menteur entre vous deux. Je ne saurais qui choisir. Ouais.